15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons l'auteur du livre PMA, un enjeu de société. Aude Mirkovitch, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue de passage à Lourdes pour parler d'un sujet dont vous êtes devenue, j'ose dire, une spécialiste et dont vous parlez avec beaucoup de conviction, à savoir la PMA, mais d'autres sujets encore autour des questions bioéthiques, la procréation médicalement assistée. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va vous demander de faire œuvre de pédagogie, de nous expliquer. D'ailleurs, je crois que vous êtes enseignante, vous enseignez dans le domaine du droit.
Oui, tout à fait.
Mais là, vraiment, j'ai envie de me mettre à la place de celui qui comprend pas grand-chose au débat actuel, aux enjeux en tout cas qu'il y a derrière la question de la procréation médicalement assistée, dont on dit, dont on entend que c'est la modernité, c'est une voie d'égalité, que sais-je. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça veut dire PMA, Aude Mirkovitch?
Alors, PMA, cela signifie procréation médicalement assistée. On parle aussi parfois de l'AMP, ou assistance médicale à la procréation, mais c'est la même chose. Il s'agit de l'ensemble des techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Il y a essentiellement deux techniques qui sont l'insémination artificielle, d'une femme avec les gamètes de son conjoint ou concubin ou les gamètes d'un donneur. C'est ce qu'on appelle l'IAC, insémination artificielle par le conjoint, ou IAD par un donneur. Et la deuxième technique, c'est la FIV, fécondation in vitro, qui, comme son nom l'indique, organise la rencontre des gamètes, cette fois-ci en dehors du corps de la femme, en laboratoire. Donc les ovocytes et les spermatozoïdes se rencontrent en laboratoire pour obtenir des embryons qui sont ensuite transférés dans l'utérus de la femme en vue de leur naissance.
Pour des personnes qui sont en difficulté pour avoir un enfant, on a envie de vous dire, mais c'est un progrès. C'est la science qui est à l'œuvre pour nous aider, pour aider ces personnes qui sont dans une souffrance, une problématique médicale.
Alors, la procréation médicalement assistée permet en effet à certaines personnes qui ne peuvent pas, par leurs propres moyens, d'avoir un enfant. Mais il faut avoir à l'esprit que la procréation médicalement assistée suscite aussi pas mal de difficultés, hein, puisqu'il y a des couples qui sont en difficulté avec des embryons congelés qui sont conservés et dont ils ne savent plus quoi faire. Il y a les souffrances des enfants qui sont nés d'un don de gamètes, hein, qui s'exprime aujourd'hui, la première génération des enfants issus de ces dons. Il y en a certains qui cherchent leur donneur. Voilà, donc la procréation médicalement assistée suscite des difficultés, mais aujourd'hui, la procréation médicalement assistée en droit français quand même ménage l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle poursuit un objectif thérapeutique, c'est-à-dire compenser une infertilité pathologique ou alors éviter de transmettre une maladie grave. Et c'est pourquoi la PMA ne concerne que des couples composés d'un homme et d'une femme qui sont vivants et en âge de procréer. Ce qui garantit à l'enfant qui est issu de cette PMA une filiation cohérente au regard de la procréation.
Donc ce qui se trame, c'est un changement de la loi pour étendre cette possibilité de PMA à d'autres couples, à d'autres parents.
Voilà, alors ce qui est réclamé par certains et annoncé par le gouvernement à l'occasion de la révision de la loi bioéthique, c'est ce qu'on appelle l'extension de la PMA en dehors des indications médicales, c'est-à-dire, ou bien alors on l'appelle aussi la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'insémination par des donneurs, de femmes célibataires ou de femmes en couple de femmes, c'est-à-dire de femmes qui ne souffrent pas d'une infertilité pathologique, mais qui veulent réaliser un désir d'enfant qui n'inclut aucun homme.
On entend souvent ce mot « égalité ». Au nom de l'égalité, je demande à pouvoir avoir un enfant et donc bénéficier de la procréation médicalement assistée. Alors que je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème physique, physiologique. Qu'est-ce que vous dites de ça, de cette égalité revendiquée?
Alors, si on veut réclamer la PMA, il faut trouver une autre raison que l'égalité. Parce que, comme le Conseil d'État l'a encore redit pour la énième fois en juillet 2018 dans son rapport rendu sur le sujet, L'égalité ne consiste pas à traiter tout le monde de la même manière, à donner la même chose à tout le monde, mais à traiter de la même manière ceux qui sont dans la même situation ou des situations comparables. D'ailleurs, c'est pourquoi entre deux malades, on ne donne pas les mêmes médicaments aux deux. C'est-à-dire que si un a besoin de ceci, l'autre n'a pas le droit à avoir la même chose. Et au regard de la procréation, eh bien, un couple homme-femme infertile n'est pas dans une situation comparable à celle d'une femme célibataire ou d'un couple de femmes. Mais le Conseil constitutionnel a déjà dit lui aussi à de nombreuses reprises, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2012, l'avait déjà dit, elle avait été saisie par deux femmes françaises qui se plaignaient justement que la loi française ne leur permette pas de recourir à l'insémination artificielle pour avoir un enfant. Et elle avait déjà dit clairement que les requérantes, donc un couple de femmes, n'étaient pas dans une situation comparable à celle d'un couple infertile. Donc il n'y a pas ici d'inégalité. Et puis, puisqu'on parle d'égalité, sous prétexte de remédier à une inégalité imaginaire, on s'apprêterait à légaliser, à instituer une inégalité bien réelle, celle-ci, entre les enfants, entre ceux qui auraient la possibilité d'avoir un père et ceux auxquels la loi interdirait d'avoir ce père. Puisque les enfants qui seraient issus de tel PMA pour les femmes seraient privés de lignée paternelle.
Donc ça signifie que vous, pour vous, l'argument majeur contre l'extension de la PMA, c'est de dire mais finalement on met dans la loi la possibilité d'avoir un enfant sans père, c'est acté ainsi.
Alors en effet, et le mot important là c'est vraiment la loi, parce que des femmes prennent la décision d'avoir des enfants sans père, c'est quelque chose qui... ce sont des faits qui ont toujours existé, qui existeront toujours, et ce sont des situations que la société accueille sans avoir à se poser de questions. Mais là, nous ne parlons pas des décisions que les individus peuvent prendre dans le cadre de leur vie privée, concernant la procréation, avoir un enfant, ne pas en avoir, avec qui, quand, etc. Non, nous parlons de la loi. La loi est sollicitée, le législateur est sollicité pour réaliser ses désirs. Et à partir du moment où la loi est sollicitée, alors on n'est plus dans la vie privée des gens, on est dans la sphère publique. Il s'agit de la loi, et cette fois-ci, eh bien, la décision est de la responsabilité du législateur, et le travail du législateur, c'est d'assurer le respect des droits de tous, comme de l'intérêt général. Et d'ailleurs, je parle du législateur, mais il en va de même de tous les citoyens. Si la façon dont ma voisine décide d'avoir un enfant ne me regarde certainement pas, en revanche, à partir du moment où la loi est sollicitée, en tant que citoyenne de la République française, je suis concernée.
Aude Mirkovic, vous êtes universitaire, vous êtes juriste, essayiste, auteur de ce livre dont j'ai parlé en début d'entretien, PMA, un enjeu de société, paru chez Arthège, cette année 2018. C'est peut-être pas la juriste que j'interroge là. Finalement, certains vous disent, le père, on institutionnalise ou on met dans la loi qu'il est possible d'avoir un enfant sans père. Mais des gens vous diront, l'essentiel c'est d'avoir de bons parents. Même deux femmes qui seraient deux bons parents, c'est préférable à une famille avec un père et une mère où l'un ou l'autre ne serait pas à la hauteur de l'éducation qu'on doit à l'enfant. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ?
Alors, il est évident que deux femmes peuvent tout à fait donner beaucoup d'amour à un enfant et l'éduquer. Ça, c'est sûr, la question n'est pas là. La question, c'est que l'absence de père, c'est une souffrance qui est expérimentale, c'est-à-dire que chacun peut faire l'expérience dans sa propre vie ou dans la vie des personnes qu'il connaît. Et même si... de l'affection et de l'amour peuvent être donnés à l'enfant par deux femmes, ça ne comble pas la branche paternelle qui est effacée. Et on rencontre parfois des personnes qui sont nées sous X, qui sont déjà retraitées, qui sont déjà âgées, et qui confient que l'absence de ce père inconnu, ça a été un poids pendant toute leur existence. Alors bien sûr, elles se sont construites avec cette difficulté, elles ont surmonté cette difficulté, mais c'est resté un poids pendant toute leur vie. Et c'est pourquoi l'amour est essentiel dans la vie d'un enfant, mais l'enfant n'a pas seulement besoin d'amour, il a aussi besoin de pouvoir se construire en sachant d'où il vient, en sachant qui est à l'origine de sa vie. Parce que dit la filiation à chacun d'entre nous ? La filiation, elle découle de l'acte de naissance qui indique à chacun de qui il est né. finalement lui dit « Mais pourquoi est-ce qu'il existe aujourd'hui sur la Terre ? C'est extrêmement important. » Et cette naissance à laquelle la filiation renvoie l'enfant, elle est le plus souvent biologique, mais elle peut être aussi symbolique, notamment dans le cadre de l'adoption ou lorsqu'un homme reconnaît un enfant qui n'est pas le sien. La filiation peut tout à fait être de l'ordre symbolique, ça c'est vrai, mais pour que ce schéma puisse se mettre en place, encore faut-il que les parents offrent à l'enfant un cadre qui soit cohérent par rapport aux exigences de l'engendrement. Et quel que soit l'amour qu'une femme ou deux femmes vont pouvoir donner à l'enfant et qui n'est pas en cause, quelle que soit leur capacité éducative, eh bien malheureusement, elles ne peuvent pas offrir à l'enfant ce schéma. Donc la vie suscite déjà suffisamment de cas où les enfants sont privés de ce schéma justement parental. Bon, et là, on parle de la possibilité de l'institutionnaliser, et c'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus grave.
Il existe aujourd'hui dans la loi la possibilité d'adopter, il existe aussi la possibilité d'un accouchement sous X. Finalement, on a envie de vous dire, voilà, dans la loi même, on donne la possibilité d'avoir un enfant sans le père biologique, sans la mère biologique. Donc, au fond... Qu'est-ce que vous avez contre la PMA, ouais, avec ces deux aspects-là, ces deux possibilités qui existent déjà ?
Eh bien, en fait, il y a une grande différence entre les deux, parce que ce soit le cas de l'accouchement sous X ou accouchement dans le secret, qui est donc la possibilité que donne la loi à une femme qui ne veut pas donner son identité, de bénéficier d'une assistance médicale au moment de l'accouchement. Donc ça, c'est l'accouchement sous X. Et que ce soit donc l'accouchement sous X ou l'adoption plénière qui, en effet, elle aussi met de côté la famille d'origine de l'enfant, donc les parents biologiques, ce sont des mesures qui interviennent dans l'intérêt de l'enfant. L'adoption n'a jamais privé un enfant de quoi que ce soit, et certainement pas de ses parents d'origine. L'adoption intervient au profit d'un enfant qui a été privé, ça oui, mais par les malheurs et les aléas de la vie d'un de ses parents ou des deux, et l'adoption intervient pour réparer cela. Au contraire, la PMA, elle organise la privation de père pour que l'enfant n'ait qu'un seul parent, donc sa mère, pour laisser la place au projet parental d'une deuxième femme. Donc ce que l'adoption répare, la PMA le provoque. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une grande différence entre les deux. D'ailleurs, c'est pourquoi, au regard des droits de l'enfant, tant l'accouchement dans le secret qui vise à protéger la vie et la santé de l'enfant en permettant cette assistance médicale au moment de l'accouchement, tant l'accouchement sous X que l'adoption sont compatibles avec les droits de l'enfant parce qu'elles interviennent dans l'intérêt de l'enfant. Alors que la PMA, elle met de côté le père, ce qui est contraire aux droits de l'enfant, mais non dans l'intérêt de l'enfant, mais pour réaliser le désir d'enfant d'autrui.
Et l'accouchement sous X... Vous dites quoi ? C'est quand même une possibilité aussi de faire naître un enfant sans la maman.
C'est vrai qu'à partir du moment où la femme peut ne pas donner son identité au moment de l'accouchement, l'enfant ne saura pas qui elle est et par ricochet ne saura pas non plus qui est le père. En effet, mais l'accouchement sous X, c'est une mesure de crise. C'est une mesure qui... La femme ne veut pas donner son identité. Donc si on ne lui permet pas d'accoucher dans le secret, il y a de fortes chances qu'elle mette l'enfant au monde dans la rue ou quelque part, enfin, sans assistance médicale. Et on vise à sauvegarder la vie de l'enfant, ou en tout cas sa santé. Alors est-ce que la mesure est efficace ? Moi je ne sais pas. Peut-être dans les pays qui n'ont pas l'accouchement dans le secret, il n'y a pas plus d'infanticides, il n'y a pas plus de morts de nourrissons dans ces conditions-là. Donc on pourrait tout à fait discuter de l'opportunité de maintenir ou pas l'accouchement dans le secret, mais c'est une mesure qui vise à sauvegarder l'enfant. Donc c'est une mesure de crise, elle ne peut pas servir de modèle. C'est pas parce qu'il y a une grande différence entre gérer une situation dramatique, donc une femme qui va mettre un enfant au monde et qui ne veut pas donner son identité pour des raisons diverses, et il y a une grosse différence entre gérer une situation de crise et délibérément provoquer le fait que l'enfant ne connaisse pas son père. Parce que justement, l'accouchement sous X, personne ne pense que ce soit une chance pour l'enfant. C'est toujours une difficulté. C'est une difficulté qui pourra être surmontée, bien sûr, heureusement, mais ça reste toujours une difficulté. Donc, ça ne peut pas servir de prétexte, bien sûr, à planifier délibérément la même difficulté côté paternel.
Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette émission et juste après, nous continuons ce dialogue avec vous, Aude Mirkovic, dont vous, je rappelle, vous venez de faire paraître ce livre « PMA, un enjeu de société » paru chez Arthège. Juste après la pause, nous parlons notamment du droit de l'enfant ou des droits de l'enfant qui s'opposent au droit à l'enfant. On va voir ça. À tout de suite.
Bonjour, c'est André de Chabannes. Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums, Retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, tous les samedis à 22h.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, notre invité, qui est de passage à Lourdes, c'est vous, Aude Mirkovic. Vous êtes l'auteur de ce livre PMA, un enjeu de société. Bon, pas seulement ce livre-là, puisque vous aviez écrit auparavant un roman intitulé « En rouge et noir ». Alors, allusion hein, au célèbre roman de Stendhal, mais basé aussi, avec en toile de fond, sur le sujet de la PMA également. PMA, un enjeu de société. Est-ce que vous diriez que là aussi, il y a des enjeux qui nous sont cachés sur ce sujet, Aude Mirkovic? Est-ce qu'on nous dit tout sur le sujet? Est-ce que c'est uniquement un problème de savoir si on est égaux ou pas devant le droit à l'enfant, le désir d'enfant? Il y a autre chose derrière, il y a d'autres enjeux?
Oui, je pense qu'on ne nous dit pas tout parce qu'on parle systématiquement de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. On parle de la souffrance des femmes, du désir d'enfant des femmes, et en effet, il faut en parler. Mais en réalité, ce projet donc d'extension de la PMA ne concerne pas les femmes seulement. Il concerne les enfants, on en a déjà parlé, les enfants donc qui seraient interdits légalement de lignée paternelle, donc amputés d'une branche de leur filiation quand même. Mais la société tout entière est également concernée, puisque comme le comité d'éthique l'a relevé dans son avis pourtant favorable, d'ailleurs j'ai envie de dire de façon inexpliquée favorable, le comité d'éthique a relevé que cette mesure faisait courir à la société un risque de déstabilisation de tout l'équilibre bioéthique.
Alors là, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a plusieurs points. C'est tout d'abord, on part du constat qui est de notoriété publique que déjà, en droit actuel, où la PMA donc vise à compenser une infertilité pathologique, et donc elle concerne un homme et une femme qui ne peuvent pas procréer par leurs propres moyens. Donc nous sommes dans un contexte de PM, dans ces cas-là, nous n'avons pas assez de donneurs. Alors même qu'on ne recourt aux dons de gamètes que par exception, lorsque le couple ne peut pas produire ses propres gamètes, on n'en a pas assez. Avec la PMA pour les femmes, qui sont toujours des PMA avec donneurs, on va passer aux dons de gamètes, non plus par exception, mais généralisés. Donc on va largement augmenter la demande de gamètes.
Donc il y a un risque de marchandisation?
Et voilà, le moyen d'augmenter les apports de gamètes, c'est la rémunération. Et ce n'est pas la peine de se voiler la face. Tous les États qui ont ouvert la PMA en dehors des indications thérapeutiques ont été obligés de rémunérer les gamètes. Il y a deux États qui ne l'ont pas fait, c'est la Belgique en Europe et le Canada aux États-Unis. Résultat, la Belgique se retrouve à acheter 90% de ses apports de sperme au Danemark et le Canada achète 90% de ses apports de sperme aux États-Unis. Donc, la rémunération des gamètes est une obligation. On ne peut pas faire comme si ça n'allait pas arriver. Et comme le comité d'éthique le relève encore fort bien, si on renonce à ce principe essentiel de la bioéthique française qui est la non-marchandisation des éléments et produits du corps humain, donc si on rémunère les gamètes, pourquoi s'arrêter aux gamètes? Parce qu'on a aussi une pénurie d'organes en France et des gens en meurent qui plus est. Donc dans ces cas-là, on passerait aussi à la rémunération des organes. Donc ça, c'est le genre de choses aussi que la société doit réaliser. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que nous voulons d'une société où les éléments et produits du corps humain s'achètent et se vendent?
Si on en reste aux gamètes, est-ce que le danger qu'il y a, c'est la sélection humaine, enfin ce qu'on appelle l'eugénisme, je crois. C'est ça qui nous guetterait?
Alors oui, en plus, l'eugénisme fait partie du package, si je puis dire, du projet. Et là, je vais emprunter cette affirmation à Jacques Testard, qui est, comme chacun sait, à l'origine de la fécondation in vitro en France. Hein, c'est lui qui a été le pionnier en la matière, donc il sait de quoi il parle. Et il explique que de toute façon, la PMA, déjà depuis l'origine, est liée à la sélection. Parce que à partir du moment où on choisit, on doit sélectionner et on choisit forcément les meilleurs. Donc ça s'appelle de l'eugénisme. Quand on choisit un donneur, il faudrait vraiment être idiot pour prendre un donneur alcoolique avec des maladies génétiques. Donc on choisit un donneur qui semble en tout cas en bonne santé, avec des bons gènes, etc. Quand on a 10 embryons et qu'il faut en retenir 2, il faudrait encore être idiot pour prendre un embryon malade ou un embryon qui a l'air bizarre. Non, on prend ceux qui sont considérés comme étant les meilleurs. Et Donc cette sélection déjà qui est intrinsèque à la PMA, elle est aujourd'hui quand même très contenue en droit français, justement par l'objectif thérapeutique. Parce qu'on ne peut sélectionner les embryons que pour éviter les maladies génétiques graves qui sont présentes dans la famille. Donc vous voyez, la sélection est limitée par la loi. Mais si on passe à la PMA non thérapeutique, donc la PMA pour les femmes qui ne souffrent pas de stérilité, donc on abandonne ce critère thérapeutique, alors en réalité, on passe à la PMA généralisée, hein, c'est-à-dire que pourquoi exiger d'un couple homme-femme que la femme soit stérile, alors que si elle était célibataire, elle pourrait être inséminée par un donneur, hein. Donc en réalité, la PMA pour les femmes dont nous parlons, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un prétexte pour lever ce verrou thérapeutique, et la cible de ce qu'on pourrait appeler le marché de la procréation, ce sont les couples hommes-femmes fertiles qui sont numériquement les plus nombreux et les plus intéressants d'un point de vue financier.
Qui ferait appel à la PMA avec une visée de sélection derrière.
Exactement.
C'est ça que vous nous dites.
Oui,
et c'est effrayant ce que vous nous dites là.
Bah, c'est ce qui se passe partout. Alors pourquoi est-ce qu'un couple homme-femme fertile recourrait à la PMA? Ce n'est pas pour avoir un enfant sans plus, hein, parce que ça, ils peuvent le faire tout seuls. Donc s'ils recourent à la PMA, c'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel projet. Donc, aux États-Unis.
Vous voulez dire critères physiques, critères intellectuels,
que sais-je ? Oui, par exemple. Aux États-Unis, des couples hommes-femmes fertiles se tournent vers la fécondation in vitro pour pouvoir sélectionner un garçon ou une fille. Au Royaume-Uni, on peut faire une fécondation in vitro pour éviter un strabisme. En Chine, on fait des recherches pour pouvoir planifier l'enfant à QI élevé. Hein, voilà. Donc, quand on voit qu'aux États-Unis, un couple de femmes a engagé la responsabilité de l'hôpital parce que la fille mise au monde par l'une d'elles qui avait été inséminée par un donneur est métisse, alors qu'elle est par ailleurs en parfaite santé, vous voyez quel genre de message elle est envoyée à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, dans un contexte de PMA généralisé, l'enfant est programmé selon certains critères et l'enfant est sommé de correspondre à ce projet.
Vous mettez le froid dans le dos à bien des gens qui nous écoutent en ce moment, sans doute.
Non, mais en fait, le but n'est pas d'avoir froid dans le dos, il s'agit simplement de réaliser ce que signifie le projet. Et c'est très important, parce que quand on pose la question aux gens, en partant de la souffrance des femmes, on a vu les sondages publiés en janvier 2018, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on donne la possibilité aux femmes d'avoir un enfant ? Et évidemment que les gens disent oui. Parce que déjà, c'est extrêmement difficile de se déclarer contre quelque chose, surtout si c'est pour donner du bonheur à quelqu'un. En revanche, dans un sondage qui a été IFOP, qui a été publié en septembre, là, il y a quelques jours, quand on pose la question du côté des enfants et qu'on demande aux gens « Est-ce que selon vous, l'État doit garantir aux enfants issus de la PMA un père et une mère ?» Il y a 82% des Français qui répondent « Oui ». Et un sondage demandé en juin, par Vita à l'époque, révélait aussi que pour 80% des Français, le rôle du père était essentiel. Vous voyez, donc en réalité, il ne suffit pas d'avoir froid dans le dos, ça ne sert à rien. Il faut réaliser ce que signifie cet abandon du critère thérapeutique pour la PMA. En fait, la société doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces techniques de reproduction artificielle ? Est-ce que ça doit rester une réponse médicale à un problème médical ? Ou est-ce qu'on veut passer à la PMA généralisée ? Voilà. Et selon ce que nous voulons faire, eh bien nous pouvons écrire à notre député pour le lui dire.
Merci en tout cas de débusquer ces enjeux majeurs qui ne sont pas évidents lorsqu'on entend ou on suit les débats actuels à la télévision ou dans les différents médias. D'ailleurs, vous trouvez que vous avez, vous, la possibilité de vous exprimer de façon libre, ouverte, dans le débat actuel qui s'ouvre ?
Écoutez, oui, moi personnellement, je suis quand même régulièrement invitée à m'exprimer à la radio par les journalistes. Donc, il est vrai que les médias ont quand même un préjugé favorable à l'égard de tout ce qui est nouveau, tout ce qui semble du progrès, tout ce qui est la technologie. Donc, il y a une forte pression médiatique en faveur de la PMA. Mais enfin, les médias eux-mêmes, les journalistes, sont intéressés par le sujet. Ils sont quand même réservés avec cette histoire. Parce que là, nous avons des choses très concrètes. Hein. Des enfants qui sont privés de père. On a déjà les enfants issus des dons. Hein, la première génération des enfants de donneurs qui nous expliquent qu'être issu d'un donneur, ce n'est pas rien. Hein, on a beau l'appeler donneur, il fait partie de la vie de l'enfant. Et on voit bien que là, on irait beaucoup plus loin. Parce que les enfants issus des dons de gamètes, aujourd'hui, ils sont très clairs. Ils disent qu'ils ne cherchent pas un père en la personne du donneur. Parce qu'un père, ils en ont déjà un. C'est leur père légal, l'homme qui les a élevés, qui les a nourris, qui les a éduqués. Mais justement, les enfants à venir de ces PMA pour les femmes, eux, ils ne pourront pas en dire autant parce qu'un père, ils n'en auront pas et ils n'en auront jamais. Voilà, donc on voit que toutes ces choses-là, ces personnes-là témoignent et les journalistes les entendent. La rémunération des gamètes, la consanguinité aussi, parce que les enfants issus des dons, il y en a quelques-uns qui sont médiatiques, il y en a deux qui se sont mariés ensemble. On nous avait martelé pendant des années que les enfants issus des dons n'avaient aucune chance de se croiser, que statistiquement le risque était nul. Bon, eh bien, Arthur et Audrey Kermavelzen, ils se sont exprimés partout dans la presse, donc je ne trahis aucun secret. Ils sont tous les deux issus de dons de gamètes et ils se sont mariés ensemble parce qu'ils se sont rencontrés dans une association d'enfants issus du don. Donc, ils ont déjoué les statistiques. Et avec 7 autres jeunes de leur entourage, ils ont fait des tests de salive par Internet pour voir s'ils étaient d'où ils venaient. Arthur a retrouvé son donneur grâce à une petite enquête généalogique et Audrey s'est rendu compte qu'elle était issue du même donneur que son frère. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais que également sur les 8, il y a une autre jeune femme qui est sa cliente parce qu'elle-même est avocate et le frère de celle-ci qui sont issus du même donneur. Donc sur 8, ils sont déjà 4 issus du même donneur.
Ça s'appelle la consanguinité.
Voilà. Donc pour des gens qui ne devaient jamais se rencontrer, c'est raté. Mmh. Et donc, on sait très bien que la généralisation du recours au donneur avec en plus la rémunération des donneurs qui va encourager les donneurs à multiplier leurs apports, tout ça expose les enfants à la consanguinité. Donc tous ces éléments-là font que le débat aujourd'hui existe et il n'y a pas de consensus sur la PMA, ni chez les Français, ni chez les politiques. Donc pour l'instant, rien n'est fait.
D'accord. Merci pour toutes ces explications, ces éclairages. Je vous renvoie les uns et les autres vers votre ouvrage. PMA, un enjeu de société, paru chez Arthej. Merci à vous, Aude Mirkovic. Et puis à bientôt, j'espère, de passage à Lourdes pour parler peut-être d'autres sujets plus spirituels, éventuellement.
Eh bien, je l'espère aussi. Merci à vous.
Au revoir.
Passage à Lourdes.
Présence. Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
Chaque mercredi à 16h.